Bonjour et bienvenue à Détour Estival avec Fulgence Plat au micro et Maurice Bolduc à la console. Pour cette deuxième édition de la semaine, nous allons commencer avec notre chroniqueur de langue, Patrice Coquereau, et en deuxième partie d'émission, oui, bien sûr, les Jeux Olympiques. Il y a tellement d'événements. Voilà. Allez, on part en musique avec Stromae et Ave Césaria.
Fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr. La première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà,
tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà,
après tant d'années,
et voilà,
une de perdue, c'est ça.
Et voilà,
c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr,
c'est
chapeau pour la route à pied, nuet et nuetée, diva aux pieds nus restera et
à
Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde
à vous.
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Hommage à la grande Césaria, la Capverdienne qui nous a quittés il y a quelques années. C'est la grande dame aux pieds nus, Stromae avec Césaria. Alors, on a notre chroniqueur de langue française qui est déjà avec nous en ligne. Il va nous faire découvrir encore quelques subtilités de la langue française. Patrice Coquereau. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour Fulgence et bonjour tout le monde.
Comment vas-tu?
très bien. Merci pareillement.
Oui, je vais bien.
Oui, super. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la langue française dans le monde.
Dans le monde?
Oui, dans le monde, parce qu'on a tendance...
Allez, surprends-nous. Surprends-nous, s'il te plaît.
Parce qu'on a tendance, spécifiquement au Québec, à considérer la langue française comme, on dirait les Français, nos cousins, ringarde.
Oui.
Alors que c'est une langue, une des langues les plus en expansion dans le monde actuellement.
Oui.
Et au Québec, on a tendance à croire que, ben non, c'est l'anglais partout et tout. Non, le français est une des langues qui d'ici 2050-60, sera la plus en vue.
Ah
je vous donne quelques chiffres. Allez sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie, vous serez étonné, pour ne pas dire subjugué.
Oui, subjugué. L'OIF.
Oui, l'OIF.org. Alors, il y a actuellement, officiellement, on dit bien officiellement parce que ce sont des chiffres à prendre avec quand même une certaine réserve, mais 300 millions de personnes sur la planète qui sont francophones ou en capacité de parler français.
300 millions.
300 millions. C'est un chiffre hyper conservateur.
Oui.
300 millions de personnes qui sont capables d'écrire et de lire le français.
OK.
Bon. Il y a, comme membre observateur, membre régulier dans l'OIF, 88 États et gouvernements.
Oui.
C'est la cinquième langue mondiale, le français.
Oui.
Il y a actuellement plus de 130 millions de personnes qui l'apprennent.
130 millions de personnes qui l'apprennent.
130
millions, ça, c'est les francophiles, ça.
Des francophiles. Mmh. Et c'est la quatrième langue sur Internet.
OK.
Donc, ce n'est pas rien.
Oui.
C'est une langue qui, d'ici 2050-60, pourrait passer de 300 millions à 700 millions de personnes.
OK. Donc, un peu plus du double, quoi.
Oui, absolument. Mmh. Et c'est une langue donc qui est très apprise. Et pour avoir voyagé, parce que j'ai quand même voyagé, pas tant que ça, mais quand même suffisamment, j'ai vécu des choses étonnantes. Par exemple...
Dans des régions du monde où tu ne t'attendais pas du tout qu'on pourrait te répondre en français?
Non, le plus grand étonnement que j'ai vécu, c'est la Chine.
Ouais. OK.
Les Chinois font beaucoup affaire, d'une part, avec les pays africains, pour toutes sortes de raisons commerciales qu'on connaît. Puis, c'est pas parce que je donne ma bénédiction au système chinois, mais c'est factuel, ce que je vais vous dire.
Oui.
Et par la force des choses, en Chine, le français est une des langues, après l'anglais, en fait, est la deuxième langue la plus apprise. Pourquoi? Question d'affaires. Mais également, ce qui est étonnant pour être allé à Beijing et Shanghai, j'ai vu, il y a des sur la télévision, il y a BBC, dans les sites autres que chinois, il y a BBC, il y a des sites américains, mais il y a également France 24, qui est un site français, qui diffuse en continu, mais qui est diffusé partout sur la planète. Donc, il y a France 24. Mais également, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'en Chine, la télévision nationale se décline non seulement en mandarin, mais également en arabe, en anglais et en français.
La télévision nationale chinoise?
Exactement.
Qui est contrôlée par le gouvernement?
Oui, absolument. Mais elle est diffusée, entre autres, en arabe, en anglais et en français.
Et en français. Tant mieux.
Oui, donc ce qui veut dire que pour ceux et celles qui croient que le français est une langue dépassée, absolument pas.
Mais
pas du tout. Les Chinois donc font affaire beaucoup avec les Africains, mais également n'oublions pas qu'en Inde, pays voisin, est un pays en pleine expansion et où les centres d'appel foisonnent, ce qui fait que le français est une des langues priorisées.
Bonne nouvelle.
En Inde.
Oui, pour la survie de la langue française à travers le monde, d'ailleurs.
Oui. Donc, oui. Le français n'est pas du tout une langue de second ordre,
oui.
C'est une langue d'affaires, mm-hmm. C'est une langue de c'est une langue de business, c'est une langue de hyper importante.
Oui.
Et quand on considère, quand on constate que des pays comme l'Inde et la Chine favorisent l'apprentissage du français, ben c'est quand même assez révélateur.
Oui.
Et donc, il y a actuellement 300 millions de locuteurs francophones officiels et qui augmentent de 10 à 15 millions par année.
Wow, ça bouge, hein?
Ça bouge beaucoup.
Mais Patrice, mais notre inquiétude au Québec, je crois bien, c'est parce qu'on est entouré par des millions de d'anglophones, c'est tout. Voilà.
Et parce que le Québec est une terre conquise. C'est un des seuls endroits...
Oui.
Qui était habité par des francophones, qui était conquis.
Ouais.
Pour le reste de la planète, le français est une langue de prestige ou de... Il n'y a absolument pas une langue ringarde.
Oui.
Donc, au Québec, il serait grandement temps de changer notre regard en disant je pense que le français est une langue prioritaire, d'autant plus que pour être allé à Vancouver, pour avoir voyagé beaucoup,
oui.
Mes nièces en Californie sont allées à l'école française. Il y a une demande extrêmement forte aux États-Unis. Il y a des classes de français à New York, même en Utah, partout. C'est, plus on s'approche de Montréal, plus il y a une résistance.
Oui,
plus on s'éloigne de Montréal, plus le
français intéresse les gens. C'est ça.
Voilà.
Il y a un grand écrivain, moi j'ai connu aussi un gars de prof à l'Université de New York, originaire du Cameroun, qui enseignait le français à l'Université de New York. Et puis il y a un grand écrivain qui est bien connu au sud du monde, dans le monde francophone, Alain Mabankou, qui est prof de la littérature française à l'Université de Los Angeles en Californie.
Oui.
C'est, ça veut dire que les Américains s'intéressent beaucoup à la langue française aussi. Hein.
Mais oui, mais le français, donc, comme je disais, est une langue avec un avenir prometteur.
Oui.
Et sachez, allez sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie.
Oui.
Vous serez étonné de voir les pays membres.
Oui.
Vous allez voir la carte. Évidemment, il y a la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, les pays francophones, l'Algérie ou des membres.
Plus, oublions les 14 pays francophones en Afrique, d'ailleurs.
Oui. Mais depuis quelques années, il y a des adhésions étonnantes. Mm-hmm. Le Mozambique, qui est un pays de langue portugaise, le Ghana, qui a adhéré, l'Argentine, l'Uruguay, la Corée du Sud, le Mexique, l'Irlande.
C'est des pays observateurs.
Observateur, mais l'Irlande, il faut le faire quand même. La Corée du Sud.
Au Mozambique, c'est un pays allophone. On parle portugais là-bas. Portugais. Oui.
Mais l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique, c'est incroyable.
Lusophone, un pays lusophone, pas allophone.
Lusophone, exactement. Alors, vous voyez le nombre de pays qui ont un intérêt économique, probablement, à faire partie de ce forum économique francophone mondial.
C'est intéressant.
Donc, le français est en très bonne santé.
Oui. Bonne nouvelle.
Alors voilà, donc arrêtons de s'excuser de parler français au Québec.
Oui. Moi, je sais que je parle français tous les jours. Alors là, alors, on continue avec la suite de ta chronique, s'il te plaît.
Ben, c'est ça. Donc, ce que je voulais dire en substance, c'est que le français n'est non seulement pas une langue ringarde, mais une langue extrêmement prolifique, active et en forte expansion. Donc, de grâce. Soyez au courant du fait que le français est une des langues majeures dans le monde.
Et pour terminer, elle se porte bien.
Oui, mais au Québec, on a l'impression qu'elle se porte mal. Donc, corrigeons le tir, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Patrice. Merci à toi, tu nous as appris des choses. On se revoit la semaine prochaine, Patrice.
Oui, absolument.
Bonne fin de journée à toi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
de la surface. Une tristesse comme du surplace. N'aie pas peur, je garde la distance. Je cultive même l'indifférence. C'est une aversion mélancolique. Une aversion mélancolique. Sur la colline en face, je sens ta chaleur contre moi. Mon amour ne te réveille pas. Tout va bien, rendors-toi. N'aie pas peur, je garde la distance. Mélancolique. Une inversion mélancolique. Je sens que quelque chose de lourd me quitte. Je n'avais jamais senti cette légèreté. Je sens que quelque chose de lourd me quitte. Je n'avais jamais senti cette liberté. Je sens que quelque chose de lourd me quitte. Je n'avais jamais senti cette légèreté. Je sens que quelque chose de lourd me quitte. Je n'avais jamais senti cette liberté. Inversion mélancolique. Une inversion mélancolique. C'est une inversion mélancolique.
Arthur H, inversion mélancolique. Voilà, quelle belle pièce avec cette voix. Voilà, avant de passer à une autre pièce musicale, là, je vais vous parler de quelque chose que dont j'ai pas entendu parler d'ailleurs depuis le 1er juillet 2021. Là, c'est un article de la presse d'ailleurs qui parle de ça. Les tarifs qui sont plaçonnés qui rentrent pas, les gens de l'industrie ne sont pas du tout contents. Hein, c'est pas. Il s'agit des zones de remorquage exclusives qui ont été faites depuis. Partagé depuis le 1er juillet là, entre 5 entreprises de remorquage. Je ne savais pas qu'il y avait une mafia dans ce domaine aussi, comme dans la construction. Je suis désolé. Voilà. Bon, si vous avez un accident à Montréal, vous tombez en panne en pleine rue à Montréal, normalement, depuis le 1er juillet, avant le 1er juillet, n'importe quel remorqueur pouvait venir et puis vous faire la... Comment dirais-je, vous donner le montant à payer. Ce n'est pas vous qui payez, c'est toujours les assurances qui payent. On ne voit jamais ce que les assurances donnent aux compagnies et aux entreprises de remorquage. Voilà. Mais depuis le 1er juillet, il y a eu une loi, une nouvelle loi qui est sortie. Tout est régularisé. Vous payez moins cher. Nous allons payer moins cher pour nous qui avons des véhicules. Ça, ça va être, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. On ne sait jamais quand on peut tomber en panne. On ne sait jamais quand on peut se faire accrocher par quelqu'un d'autre. Voilà, donc les remorqueurs sont mécontents. Des nouveaux tarifs, bien sûr, très bas, imposés par le service de police de la ville de Montréal, SPVM, qui tente. Donc, ils sont en train de tenter de les faire augmenter aussi. Ils disent que les tarifs imposés depuis le 1er juillet sont les tarifs de 2009. Ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, voilà, le président de l'Association des professionnels du dépannage du Québec, APDQ, Régent Breton, n'est pas du tout content. Voilà. Il dit ceux qui n'ont pas obtenu de territoire attribué par le SPVM se plaignent aussi du processus utilisé pour faire le choix des entrepreneurs qui ont droit dans les différents quartiers, dans les différentes zones. Voilà, pour aller chercher les voitures accidentées ou bien les voitures en panne, puisqu'il n'y a pas eu d'appel d'offres avant que le contrat ne soit accordé. Quelle était la situation avant le 1er juillet? Il y avait un véhicule tombé en panne ou accidenté, ça bloque la voie publique, la police pouvait faire appel à l'entreprise de remorquage de leur choix. C'est fini. Souvent, il y a des dépanneuses qui se présentaient sur les lieux d'une collision et proposaient leur service directement à l'automobiliste concerné. Et cela donnait lieu à des situations potentiellement dangereuses. Voilà pourquoi il y avait des courses folles dans les rues de remorqueurs qui va être le premier sur le lieu d'accident avant de pouvoir faire la facture. Donc il y avait quelquefois 5 à 6 dépanneuses qui se de compagnies différentes pour remorquer les véhicules. Donc le PDG de l'Association des professionnels de dépannage au Québec, Régent Bourgeon, dit, il dit oui, c'était comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un appel d'offres pour que chacun de nous puisse voir dans quelle zone il devait être affecté. Donc voilà, il y a d'autres même qui cherchaient jusqu'à 500, 600, 700 dollars pour le remorquage et la première journée d'entrepouvrage, et c'était trop. Ce qui a changé, c'est que maintenant on ne peut pas payer plus que 107 dollars, voilà, pas plus. Ouais, ça a chuté de 600, 107 dollars, quand même, ça fait du bien. Sinon, nos prix d'assurance augmentent quand on se fait remorquer, parce que c'est l'assurance qui paye ça tout le temps. Alors, quand on appelle le 911 à la suite de l'accident, il n'y a plus de course à la montre. C'est fini, ça. Voilà. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Donc, les changements apportés découlent dans le but d'assurer la qualité de service aux citoyens. Et que les prix aussi de la manière de procéder soient uniformes pour tout le monde. Tu n'arrives pas, et puis si tu n'es pas assigné dans la zone où tu veux aller, non, tu n'as pas droit, tu ne peux pas. Voilà, quand on appelle le 911, c'est-à-dire que c'est les entrepreneurs à qui la zone est assignée qui ont le droit, les remorqueurs qui ont le droit de se déplacer là-bas. Merci. On va en musique.
Show me how blooming you are now. Please give me some news from paradise. Show me how free you're feeling now. I guess that I was just a parasite. But there's something weird about your smile. Looks like your eyes are paralyzed. If you wanna make me buy the ear so glad, you better have a lot of spare. To hate you, but God, it's getting hard not to. So watch that look off from your face. It really makes you lose all of your grace. You won't make me cry with your sorry eyes. You won't make me cry with your sorry eyes. You won't make me cry. Sorry, guys, you won't make me cry.
Alyosha, Sorry Eyes. Alors, dorénavant, l'île de Montréal a été divisée en zones partagées entre 5 entreprises de remorquage qui ont l'exclusivité sur le territoire qui leur a été alloué. Capro pour l'ouest de Montréal, remorquage centre-ville pour Ville-Marie, le plateau Mont-Royal et le sud-ouest, Météor pour le nord de l'île, Boulstal pour Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et Morgue pour Rosemont et l'est de l'île. En dehors de ces 5 entreprises, aucune autre entreprise n'a le droit de faire du remorquage sur l'île. Restez à l'écoute. On vous revient après la petite pause publicitaire. Et puis on continue avec les Jeux Olympiques.
Détour estival avec Fulgence Blas.
Chinino, tu gâtes tout, tu mèches canard, tu canaches.
Tu mèches canard,
Meshkina, Kinache, Kine et nous de Florent Volant. J'adore ça, il va falloir que j'apprenne nous là pour pouvoir fredonner un peu comme ça quand on passe ce genre de musique là ici. Voilà, ne m'en voulez pas si j'ai mal prononcé, hein. Ça viendra avec le temps. Voilà, les Jeux Olympiques, les JO de Tokyo 2020. Voilà, il y a quelqu'un qui a surpris le monde entier, c'est en natation. Un jeune nageur, ça fait quelques jours déjà qu'il a... Un jeune nageur tunisien, 18 ans, 18 ans, à peine 18 ans. Alors là, il fait la fierté de ceux, de sa famille, de son pays, de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée, comme le dit son manager d'ailleurs. Et puis, le chef de mission de la délégation tunisienne a eu un appel, la maman d'Ahmed Ayoub Afnaoui. Il est à peu près midi au Japon et 4 heures du matin en Tunisie, dimanche 25, voilà. La famille est déjà au courant, l'enfant, ou disons, de tout jeune champion olympique de natation. Tout le monde s'attendait à l'Australien, là, ou bien à d'autres grandes de la natation, aux Olympiques, qui est expérimenté, mais pas lui, à peine 18 ans. Et j'ai vu la vidéo, la manière dont il a crié, je me suis dit, à sa place, peut-être que moi-même j'allais mourir en criant. Il ne s'attendait pas du tout à dévancer toutes ces grandes vedettes qui étaient avec lui. Alors, ce nageur de 18 ans a su son t-shirt, un drapeau rouge et blanc plutôt rare dans ce sport, d'autant plus qu'à l'instant de monter sur le podium, à la fois surpris, très fier, le sportif a surtout étonné la concurrence en finale du 400 mètres nage libre. 3:43:36. A commencé par celle de l'Australien Jack McLaughlin. C'est lui que tout le monde attendait d'ailleurs. 3:43:52. Et de l'Américain Kieran Smith. 3:43:94. Il partait du plot 8, synonyme de dernier temps, parmi les qualifiés, parce que sur des chances se sont dit, oh, celui-là, il n'a pas d'expérience, il est encore jeune, il va même pas arriver. Alors, le voilà revenu avec short, t-shirt, max de médaille d'or. Le jour de la fête de la République tunisienne de Sucre, en plus, on peut pas demander mieux que ça. Le jour de la fête d'indépendance, de la fête de la République tunisienne, d'ailleurs, pas l'indépendance de la République tunisienne, tu décroches une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Panique en tribune de presse. Mais qui est-il? En peu de mots, l'intéressé nous apprendrait qu'il a commencé à nager dès l'âge de 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, lycéen, il est encore au lycée. Il a grandi avec les exploits de son compatriote Oussama Melouli, une légende déjà triple médaillée aux Jeux Olympiques sur longue distance. Une fois à Pékin en 2008, l'or sur 1500, deux à Londres en 2012, l'or sur 10 km de bronze sur 1500 mètres. Félicitations pour le peuple tunisien, pour ce jeune d'ailleurs, déjà une fierté pour l'Afrique, pour la Tunisie, pour la jeunesse qui s'intéresse très peu à la natation d'ailleurs, dans cette partie du monde. Hein. Beaucoup de gens, même ceux en dehors de ceux qui sont en bordure des fleuves, des rivières et puis de l'océan, qui savent nager. Et c'est un produit tuniso-tunisien, c'est-à-dire qui ne s'est pas formé ailleurs, il est lycéen là-bas en Tunisie. Alors je voulais faire un clin d'œil à ce jeune garçon. 18 ans. La nouvelle génération n'est plus complexée quand elle se retrouve face à ces grandes vedettes comme Jack McLaughlin et puis l'Américain Kieran Smith. Non, il est parti. Il a mis sa tête dans l'eau. Moi, j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, les commentateurs se disaient, mais qui est ce garçon là-bas au plot 8 qui dévance tout le monde? Il est parti. Hein? Il était parti. Ouais, 400 mètres nage libre. Il était parti. Et quand il a touché l'arrivée, là, le mur, là, on s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces grands, ils ont sous-estimé ce petit garçon qu'on a mis au fond là-bas parce qu'on pensait que de toute façon, il n'allait rien faire. Et c'est lui qui a la médaille d'or. Il va retourner en Tunisie avec la médaille d'or. Alors, je voulais lui faire un petit clin d'œil, un petit coucou. Un clin d'œil, hein, voilà, un petit salut. Voilà. Mais ça compte. Il y a toujours des surprises comme ça aux Jeux Olympiques. Hein. La grande. la grande Simone Biles, qui vient de déclarer forfait. Oui, gymnastique artistique. Oh ouais, pour l'équipe de l'épreuve des équipes, ça s'est passé. La quadruple championne olympique a quitté ses partenaires après son passage au saut de cheval. Oui, remporter un troisième titre consécutif en gymnastique artistique par équipe sera plus compliqué, le plus compliqué pour les États-Unis. Et d'ailleurs, parce que si c'est sur elle que tout le monde compte dans l'équipe américaine. Si elle n'est plus là, si Simone Biles n'est plus là, les Chinois vont tout rafler, ça c'est clair. Ça s'est passé aujourd'hui. Oui. Elle a dû déclarer forfait après sa réception en saut. Oui, de cheval. Après être apparue dans le centre de gymnastique d'Ariake, Biles a réalisé un échauffement compliqué en saut de cheval après avoir décollé voilà, du tremplin. L'athlète de 24 ans semblait désorienté, n'effectuant qu'un tour et demi au lieu de deux et demi prévus. Elle a réitéré cette figure en compétition, n'obtenant que 13,733. Et puis après le saut de cheval, ouais, la championne olympique en titre s'est assise pour discuter avec sa coach, ainsi que le préparateur physique de l'équipe gymnastique des USA, des États-Unis. Elle a ensuite quitté la salle aux côtés du préparateur physique. Ils sont réapparus, Jordan Giles, Grace McCallum et Susanna Lee étaient déjà à l'échauffement, laissant penser que la participation de Biles serait peu probable. Ouais. Et puis quelques minutes plus tard, la nouvelle tombe. Oui, la grande championne ne peut pas continuer. Oui, oui. Alors, quelle est la raison pour laquelle elle a abandonné? Je vais vous parler un peu de ça plus tard, parce qu'elle a eu une conférence de presse. On va en musique. On va écouter... La rue qui est à nous, Patricia, c'est le titre de la pièce.
Entre ces nuits blanches et ces coupes de champagne, ces semaines sans dimanche, ces châteaux en Espagne. Elle a vécu centenaire en 50 ans à peine, à semer des repères sur les chemins de la bohème. Comme elle était généreuse, elle aurait bien voulu notre peine est joyeuse, que le spectacle continue. On était ses sales gosses, elle nous aimait d'amour, elle nous bombait le torse, nos vies changeaient de cours. On tourne, tourne pas la page, on pense comme toi. Trop de chefs,
trop de chefs,
pas assez,
pas assez
de hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey.
Sans jamais vendre son âme, ni celle des autres.
Le bout du monde et Paname, elle les mettait côte à côte.
Elle s'est battue pour que vive
le spectacle vivant.
Elle prenait l'alternative
et les indépendants. On tourne, tourne pas la page, on pense comme toi. Trop de chefs,
trop de chefs,
pas assez,
pas assez
de hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey d'Indien.
Allons nous soigner le cœur
à la baie, le villoise,
trinquer et faire honneur
à notre belle
iroquoise, la la la, staba da ba da, ba 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 da ba da ba ba, oh oh, Patricia. Tourne, tourne pas la page. On pense comme toi.
Trop de chefs,
trop de chefs. Pas assez,
non pas assez.
De hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey d'India.
Voilà. On vient l'écouter, là, la rue Quétano, Patricia. Voilà, je termine avec cette histoire de la grande star américaine Simone Biles qui a expliqué son forfait, qui dit que c'est dû à des démons dans sa tête. Voilà, ça me fait penser à ce que la jeune Naomi Osaka a vécu au tournoi de tennis Roland-Garros en France. Et c'est ce qui fait qu'elle n'a pas participé au Wimbledon en Angleterre. C'est maintenant, après 2 mois de repos, elle est revenue à Tokyo. Mais là, c'est autre chose. Je vais parler d'elle aussi parce qu'elle a été éliminée au 3e tour de tennis. Là, elle n'a pas pu continuer. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle entendait... Il y a des démons dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, sans retrait. Elle a expliqué ça à une conférence. Des démons dans sa tête, ça dit quoi? Voilà. Dès que je monte sur le tapis, c'est juste moi et ma tête. Traité avec... des démons dans ma tête. Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être, a-t-elle expliqué. Alors, il y a des examens qui vont être réalisés quotidiennement. La Fédération américaine de gymnastique a déclaré que la jeune athlète s'est retirée de la compétition par équipe pour des raisons médicales. Question de santé. Des examens seront réalisés quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir le feu vert médical pour les compétitions à venir. Voilà, moi, je ne suis pas vraiment convaincu. Bon, peut-être, oui, ou bien ils vont la traiter tout de suite, je ne sais pas. Remplacée lors du concours par équipe, elle a assisté impuissante à la victoire du comité olympique russe en finale. Ça, je savais. Les Russes, les Chinois, ils vont tout rafler là-bas, devant les États-Unis et la Grande-Bretagne. Bon, la gymnaste de 24 ans, déjà quadruple championne olympique, Rio en 2016, vise de nouvelles médailles d'or à Tokyo pour entrer un peu plus dans l'histoire, la légende de la discipline, et notamment se rapprocher des 9 titres de la soviétique Larissa Latinina dans les années 50-60, à l'époque. Oh oui. Un parallèle avec Osaka Naomi. Son questionnement fait écho à celui exprimé par la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, qui s'était retirée de Roland-Garros, comme je le disais. Bon, hasard du calendrier, on ne sait pas. Elle est revenue, d'ailleurs. C'est elle, à l'ouverture, qui avait tenu le feu là, qu'on allume là-bas durant les 2 semaines. La petite... non, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle a été éliminée au 3e tour. Ça, c'est aussi une grande surprise. On ne s'attendait pas du tout à ça. On s'est dit, elle va aller de l'avant. Mais non, ça n'a pas été le cas. Elle a été éliminée au 3e tour. C'est fini pour elle. Voilà, on pense bien que ça va revenir de quelque part. Mais quand même, il y a une petite japonaise qui est très dangereuse. La japonaise Nishiya, 13 ans, première championne olympique de l'histoire en skateboard. Vous savez, depuis qu'on parle de skateboard, des Jeux olympiques ici, le skateboard fait partie des sports accepté, autorisé cette année là à Tokyo. C'est la première fois. Alors 13 ans, elle est devenue la première championne olympique de l'histoire du skateboard. 14 ans. Oui, elle aura ses 14 ans en août, hein, le mois prochain. Elle a 13 ans, puisqu'on n'est pas encore arrivé à sa date de naissance là. La catégorie street, c'est passé hier, devant la brésilienne Raissa Lille, elle aussi 13 ans, et la japonaise Funa Nakayama, 16 ans. Donc la petite japonaise Nishiya, ça s'appelle Nomiji Nishiya, 13 ans, est devenue la première championne olympique de l'histoire du skate. C'est un sport additionnel, bien sûr, au JO 2020. dans la catégorie, c'est comme le taekwondo qui n'était pas sur la liste, le surf aussi qui n'était pas sur la liste. Il y a plein de sports qui vont rajouter là-dessus pour donner l'intérêt de ces jeux-là à la jeunesse mondiale, bien sûr. Elle est médaillée. Nishi a médaillé d'argent au mondial, au Mondiaux 2021 et qui fêtera ses 14 ans le 30 août. Voilà, elle n'a même pas encore 14, c'est le mois prochain. Elle n'est pas la plus jeune championne de l'histoire des JO. Le record de précocité a été détenu depuis 2036 par l'américaine Marjorie Gastring, sacrée au plongeon à 13 ans et 267 jours. Ouais, deuxième médaille d'or en skateboard pour le Japon, Nishiya. Ouais, originaire d'Osaka, inspirée par son frère dans sa pratique de ce sport de glisse, a apporté la deuxième médaille d'or en skateboard au Japon en autant de preuves. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Le skateboard fait son entrée là. Mais de toutes les façons, le skateboard a fait son entrée à ce programme là pour rajeunir l'audience, comme je le disais. Sur les 8 finalistes lundi d'ailleurs, 6 d'entre eux là, d'entre elles avaient entre 13 et 20 ans, pas plus. C'était des jeunes. C'est les jeunes qu'on voit souvent dans les rues. Donc le street skateboard, bien sûr, est l'une des deux disciplines proposées aux JO avec le park ou bien ball. Ensuite, le skater doit enchaîner des tricks et des figures très techniques sur des modules rappelant le mobilier urbain comme des rampes. Quand je les vois en ville glisser sur dans les escaliers ou bien autre chose, là, moi, je me dis, ouf, j'ai pas du tout envie de me faire mal. Voilà. Mais il y a une autre aussi qui a surpris le monde entier. On ne s'attendait pas du tout à elle. Elle, c'est une judoka. Voilà, française. Ouais, c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que celle-là s'est retrouvée là-bas. Elle est championne du monde, attention. Hein, elle est championne du monde parce que là, je me suis dit qu'au fait, avant de parler de certaines personnes qu'on n'a jamais vues ou bien qu'on n'a jamais vues sur scène ou bien sur un podium en train de pratiquer le sport, il ne faut jamais... Moi, personnellement, je la connaissais comme championne du monde, mais jamais su qu'elle avait déjà échoué dernièrement, le dernier jeu, là, à Londres, en 2016, quelque part. Ouais. C'est la judoka française Clarisse Agbeyeno qui décroche la médaille d'or, sa première médaille d'or, elle est française, qui s'est imposée en finale de la catégorie. En 7 secondes, elle a battu son adversaire serbe. C'est la deuxième... bloc d'or pour la France au JO, c'est qui a décroché la deuxième médaille d'or d'ailleurs pour la France. Hein. La judoka et porte-drapeau Clarisse Agbeyeno a remporté la finale de la catégorie des 63 kilos face à la Slovène Tina Strentenjak au Golden Score. Waza Hari. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un Waza Hari, c'est le mouvement où l'adversaire se retrouve complètement sur le dos. Voilà. Tu prends position sur l'adversaire. Voilà, donc elle était médaillée en 2016, maintenant elle est médaillée d'or. 28 ans, ouais, on lui dit bravo, hein, complètement. Et puis, elle avait été aussi en dépression durant la pandémie. Elle s'est rendue à la Réunion pour aller se reconvertir, comme on dit. Elle a commencé à faire du yoga, elle a commencé à prendre des cours de bien-être à l'école supérieure commerciale de la Réunion, là, pour se reconvertir complètement. C'est après qu'elle s'est remontée, son moral est remonté, et puis bon, ben elle s'est retrouvée comme ça, elle a été qualifiée pour les JO de Tokyo 2020. Elle est championne du monde et championne d'Europe maintenant, médaillée olympique. On va en musique.
Mes amis, mes rêves et ma bohème, je vais chanter la chanson de ma vie. Liberté, je t'aime, je te chante ce poème. 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 Liberté, je t'aime. À
Ramos, le Québécois d'origine brésilienne, Liberté, je t'aime, c'est le titre de sa pièce qu'on vient d'écouter. Alors, on a fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, je dis merci à mon complice de l'autre côté de, voilà, derrière la console, merci Maurice. Ouais, et puis bon, ben, n'oubliez pas, les jeux, ça continue, les jeux de Tokyo, ça continue. Et puis bon, ben, je dis merci aux chroniqueurs de la langue française, Patrice Coquero, et je dis merci à vous, auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité. Et on se retrouve demain, oui, à la même heure sur les ondes de Canal M. Et on vous dit ciao.
Baba,